Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi pour cet atelier qui va parler d'éducation aux médias et à l'information des jeunes générations. Alors moi, je m'appelle Philippe Raffin, je suis vice-président d'un cabinet de conseil en stratégie en communication de la RSE qui s'appelle LinkUp. Et j'ai le plaisir de modérer une discussion qu'on va avoir sur le sujet que je viens d'annoncer avec Samira Chaboun, qui est directrice marketing et communication des chaînes jeunesse du groupe M6.
Bonjour.
Avec Camille Blanco, qui est professeure des collèges au collège Olivier Dessert et documentaliste. Et qui va, vous allez voir, nous donner une restitution, un retour d'expérience extrêmement intéressant sur une opération qui va vous être présentée. Et ensuite, nous écouterons Annabelle Guilly, qui est directrice des études de M6 Publicité. Alors, vous m'entendez bien là ? Oui, vous m'entendez bien. Ce que nous allons vous présenter, enfin ce que mes camarades vont vous présenter en détail, est une opération, c'est l'édition 2023 d'une opération qui remonte à plus longtemps, mais Samira aura l'occasion d'y revenir, d'un partenariat avec des collèges sur ce thème de l'éducation des collégiens aux médias et à l'information. Et avant de revenir sur une explication et un historique et une logique de ce partenariat et de rentrer plus vivement dans la discussion, on va démarrer par le résultat, c'est-à-dire vous montrer, permettre de plonger immédiatement dans ce qu'a pu donner cette opération une fois qu'elle était produite.
Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, nous vous proposons des reportages co-réalisés avec des collégiens français en partenariat avec Gulli. Et ce sont les élèves du collège Olivier Dessert de Viry-Châtillon qui concluent cette semaine d'expérience. Ils ont souhaité aborder l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires. La jeune Naomi, accompagnée de notre journaliste Adrien Lac, est donc allée à la rencontre de Moussa Camara, le président fondateur des Déterminés, une structure qui accompagne de jeunes entrepreneurs dans toute la France. Regardez.
Moussa Camara est né et a grandi à Cergy, dans une famille d'origine malienne, très loin des codes de l'entreprise. Pourtant, aujourd'hui, Naomi, c'est une des figures de l'entrepreneuriat en France.
Et oui, il a créé Les Déterminés, une association qui aide de jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, il nous a donné rendez-vous ici, devant son ancien collège. Comment étiez-vous au collège ?
J'étais un élève qui aimait certaines matières, d'autres qui m'ennuyaient un peu. Mon rêve à moi, c'était de devenir maçon. Je voulais construire des maisons, construire des immeubles, construire des bâtiments.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'ambition ?
C'est l'envie d'agir pour les autres. Moi, je me suis engagé très tôt. Dès que j'ai pu m'engager en associatif, je me suis engagé. Et ça m'a aussi permis de faire des rencontres. Ici, on est à l'incubateur culinaire des Déterminés. C'est un lieu qu'on a lancé il y a quelques mois. Après quelques expériences entrepreneuriales, Moussa crée les Déterminés. Le constat est simple, les quartiers prioritaires fourmillent de projets, mais il faut une structure pour accompagner et former. Depuis 2015, l'association a suivi plus d'un millier de jeunes entreprises.
On a Najwa, la fondatrice de Mamie Président. Ça va Najwa, comment vas-tu ?
Oui, ça va, merci.
Je te présente Naomi, notre apprentie journaliste aujourd'hui qui est avec nous.
On a pour vocation de démocratiser la légumineuse, justement, la mettre à la portée de tous. C'est une soupe qui est préparée, qui est déjà cuisinée, il n'y a qu'à la mettre au micro-ondes et la manger.
Qu'est-ce qui vous manquait et que vous avez appris ici ?
Il y avait des choses que je n'avais pas, des outils que je n'avais pas, un lexique que je ne maîtrisais pas. Et en intégrant les Déterminés, donc on a pu compléter cette formation.
On a besoin aussi de permettre à des gens qui ont des idées, qui ont des projets, de pouvoir réussir sereinement. Et plus les entrepreneurs sont accompagnés, plus ils ont des chances de réussir. 80% des entreprises qui sont accompagnées, elles survivent au-delà des 3 ans.
Est-ce que c'est plus difficile quand on vient de banlieue pour créer son entreprise ?
Pour créer une entreprise, en général, c'est difficile pour tout le monde. Le cliché que je combats au quotidien, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme social. C'est pas parce que tu es né dans certains endroits que tu dois t'interdire de rêver, que tu dois t'interdire de réussir, de voir grand. Quand je rencontre des entrepreneurs qui viennent de banlieue ou de territoire, le fait qu'ils n'ont pas tout, ils ont quelque chose en eux qui est hyper important, c'est cette niaque. C'est cette détermination, c'est cette rage, et ça fait la différence. Parce qu'un entrepreneur qui n'a pas la niaque, il peut avoir le meilleur projet possible, parfois il n'y arrive pas.
Moussa Camara a été décoré de l'Ordre national du mérite. L'association Les Déterminés continue de s'étendre et aujourd'hui, elle est présente dans 17 villes de France.
Bon, alors on a un très très beau sujet et on voit comment cette jeune élève, cette jeune collégienne a réussi à révéler la niaque de Moussa Camara. Mais là maintenant, Samira, il faudra que tu nous donnes un petit peu plus de contexte et qu'on comprenne comment cette opération, d'où elle vient, comment elle s'est construite et comment elle a associé ses collèges.
Merci Philippe. Déjà, avant de vous dire un petit mot sur l'engagement de Gulli et plus globalement du groupe M6 sur l'éducation aux médias et à l'information, je voulais à nouveau profiter de la présence de Camille Blanco, la professeure documentaliste à mes côtés, pour saluer son engagement et sa mobilisation, puisque cette jeune Naomi que vous avez pu voir dans ce sujet du JT est une élève de 4e du collège de Viry-Châtillon. Et c'est grâce à l'engagement et au travail de Camille qu'elle a aussi réussi à être présente dans un JT du 12-45. Donc voilà, on est en pleine rentrée scolaire. Il me semble important de valoriser l'engagement des professeurs aussi investis. Et tout ce que je vais vous raconter après ne peut se réaliser sans l'engagement des professeurs.
De toute façon, on va la mettre à la question après.
Oui, mais ça me semblait important de revenir là-dessus, puisque sans les professeurs, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, pour revenir du coup sur l'engagement de Gulli et d'M6, bon, déjà pour vous dire que ça fait maintenant 11 ans que Gulli s'engage sur la question de l'éducation aux médias et à l'information auprès des plus jeunes. C'est vraiment une mission importante, une mission sociétale qui nous tient à cœur et qui est importante pour nous. On est la première chaîne jeunesse de France, la chaîne préférée des familles. Donc on a aussi une responsabilité sociétale vis-à-vis de tous les jeunes et de toutes les familles qui nous font confiance et qui nous regardent. Pendant 11 ans, on a mis en place un certain nombre d'actions concrètes, à la fois sur le terrain, mais aussi sur notre antenne. On a notamment, entre autres, produit un programme court qui s'appelle « Fais gaffe » et qui participe justement à sensibiliser les jeunes aux dangers de l'Internet et des réseaux sociaux. Et on avait pu faire appel notamment à des gros youtubeurs qui ont participé à cette action. Et ce partenariat qui ne peut se faire aussi sans notre engagement auprès du CLEMI, hein, qui est le Centre de liaison pour l'éducation à l'information, avec qui on travaille depuis ces 11 ans et avec qui on construit l'ensemble de ces actions chaque année auprès de collégiens de la 6e à la 3e.
Juste cette deux année, mots sur le CLEMI, au-delà de l'acronyme. Mais...
Oui, alors donc cet établissement en fait, qui fait partie du réseau Canopée a pour vocation justement de travailler toute l'année et de sensibiliser les jeunes sur l'éducation aux médias et l'information. Donc ils travaillent avec un certain nombre de professeurs. Chaque année, sur cette semaine de la presse et des médias, c'est près de 4 millions d'élèves dans toute la France qui sont sensibilisés. Et voilà. Et donc c'est un établissement sous la tutelle de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Voilà pour le CLEMI. Donc nous on travaille vraiment activement main dans la main avec cet établissement, ce qui nous permet de pouvoir à la fois mettre en place des actions dans les collèges, mais aussi de faire venir les collèges et les collégiens à nous. Cette année en fait, on a souhaité aller un cran plus loin de tout ce qu'on a déjà beaucoup fait pour sensibiliser les jeunes à la fois au métier de l'information, des médias, de montrer un peu la diversité aussi des métiers, puisqu'il y a aussi les journalistes, les présentateurs, les animateurs, ceux qui sont surexposés et que les jeunes connaissent, mais il y a aussi tous les autres métiers de l'ombre et qui sans eux, on ne serait pas là et sans qui à la fois nos journalistes et nos émissions ne pourraient voir le jour. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir faire connaître l'ensemble de nos métiers, mais aussi de les sensibiliser aux enjeux de la désinformation, des fake news, d'autant plus qu'aujourd'hui ils sont surexposés à la fois aux réseaux sociaux, aux plateformes digitales, et que ça reste quand même leur principale source d'information. Et donc, on se doit de leur donner quelques clés. Hein. Nous, on n'est pas là pour leur dire c'est mal, c'est bien, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On ne veut surtout pas être dans une position d'acteur moralisateur. En revanche, on souhaite leur donner des clés pour apprendre voilà, à décrypter, à comprendre que c'est une photo complètement montée. Là, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, voilà. Donc, et aussi à détecter est-ce que c'est un faux compte, d'un vrai compte, une vraie chaîne, d'une fausse chaîne, un vrai journaliste, d'un faux journaliste. Voilà, ils sont aussi très, très, très exposés aussi à un certain nombre d'influenceurs qui sont pour certains très bien et d'autres un peu moins bien. Voilà, donc on essaie de leur donner un certain nombre de clés. Et donc cette année, on a souhaité faire en sorte que ce soit eux les acteurs, leur donner la possibilité de devenir des apprentis journalistes, des mini-reporters. Et on s'est dit, finalement, peut-être pour qu'ils comprennent mieux ce que c'est que le travail de l'information, que le travail d'un journaliste, et ce que ça implique derrière aussi comme responsabilité, bah, c'était de leur donner les clés de la maison. Voilà. Donc on leur a dit, proposez-nous des sujets, des thématiques que vous souhaiteriez voir réalisé en termes de reportage. Et puis, on vous donnera la possibilité d'écrire vos sujets, de les tourner et de les monter. Et de participer, du coup, à tout le processus de réalisation d'un reportage. Et en fait, ça a été assez chouette parce que on a travaillé avec trois collèges d'Île-de-France, donc le collège de Viry-Châtillon représenté par Camille à mes côtés, un collège dans le 78, et puis un autre établissement dans le 17e. Et on a proposé à tous ces élèves, de la 5e à la 3e, de nous faire des propositions rédactionnelles de sujets. Et donc on a été agréablement surpris de voir la qualité des sujets qu'ils nous ont proposés, qui étaient très ouverts à des thématiques sociétales, culturelles, sportives, environnementales. Et puis, on a partagé l'ensemble de ces sujets avec les journalistes de la rédaction d'M6, et on a choisi cinq reportages sur lesquels ils ont tous travaillé de leur côté. Donc, ça a été deux mois de travail sur le terrain, mais en réalité, quatre mois de préparation au total. Il y a eu 11 intervenants, journalistes, rédacteurs en chef, chargés de production, voilà, un certain nombre d'acteurs qui sont intervenus régulièrement pendant ces deux mois, ce qui a donné donc 5 reportages qui ont été diffusés pendant toute la semaine de la presse dans le 12-45 de Nathalie Renoux et un direct dans le 19-45 dont on vous montrera quelques images tout à l'heure. Voilà.
Merci Samira. En parlant d'images et avant de passer la parole à Camille Blanco, parce qu'on a vraiment envie de maintenant de comprendre, vu de la fenêtre d'un professeur comme elle, ce que ça signifie et les enjeux que ça porte. Comment vous avez laissé les clés de la maison, comme tu le disais? Je crois qu'on va le voir maintenant dans un sujet qui nous montre un peu les coulisses de la production de ces reportages.
Absolument.
Eh ben, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Nathalie Renoux, je suis journaliste.
Quel autre métier auriez-vous aimé si vous n'avez pas pu être journaliste?
Quand j'étais jeune encore, je disais toujours, si je ne suis pas journaliste, je serais fleuriste. Je ne sais pas, j'aimais bien les fleurs. Je me disais, tiens, ça doit être, c'est créatif, ça, c'est beau et tout ça. Mais dans ma tête, j'avais qu'une idée. C'était d'être journaliste.
Voilà, c'était Fadjima. À tout à l'heure.
La rédaction en chef, ça consiste à choisir ce qu'il va y avoir dans le journal, choisir ce qu'on y met et la façon dont on va le mettre. Donc ça, c'est une plateforme, la plateforme de l'AFP Forum, sur laquelle on va trouver des infographies, des photos et des vidéos que l'on pourra nous aussi utiliser dans le journal.
Donc je m'appelle Dominique Tenza, j'ai bientôt 40 ans et je suis journaliste depuis 15 ans. Il faut imaginer qu'il y a quelqu'un, en fait, vous regardez votre téléphone et vous imaginez parler à quelqu'un. Pas faire la vidéo en parlant à votre téléphone.
Donc moi je m'appelle Julien Ababou, je suis journaliste au JT d'M6, donc aux journaux télévisés d'M6, qui s'appelle 12-45 et 19-45. D'un côté, sur le côté rédacteur en chef des JT, donc ça veut dire que je m'occupe de certains journalistes et de certains sujets qui vont être diffusés dans les JT de 12-45 et 19-45. Et l'autre partie de mon activité, c'est comme j'aime bien le sport et comme j'ai maintenant cette expérience du sport, je m'occupe de tout ce qui va impacter, on va dire, l'information sur les événements sportifs qui sont diffusés sur M6 ou W9.
Donc vous parliez d'un peu dans les documents, vous parliez de faire une espèce de petite cette expérience.
Connaissez-vous ChatGPT?
Quel a été le point de motivation?
Ouais, je crois que ça, c'est pour lancer la vidéo. Donc là, c'est en format portrait. Comment on fait paysage?
Nous, ce qu'on va pouvoir se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut raconter dans notre reportage?
Que pense votre entraîneur de vous et est-ce que son avis compte pour vous?
Après, pouvez-vous vous payer un salaire et embaucher de nouveaux employés payés?
Ouais.
Votre sujet, du coup, qui peut m'en parler? Ouais.
En fait, c'est dans les coulisses du musée, c'est comment ça se passe, comment on prépare une exposition. Donc.
Comment est-ce qu'on procède? Explique-moi.
Bah, on va taper la question, on va lui demander de l'écrire dans un style collégien et en quelques lignes.
Voilà, pour que ça rentre dans une interro. Eh bah, super, vas-y.
Le musée de 3500 m² expose 250 statues. Il faut pour chacune d'entre elles plus de 6 mois de travail.
Et là, si ça te va?
Non, ah mince, on n'a aucune chance. Sinon, on peut la refaire, mais ça ne va
pas. Allez.
Le MMA en France n'est légal que depuis 2020.
Jorik prépare actuellement son 6e combat en République tchèque.
Et après, tu vois, tu mets la fin.
Okay.
Tu vois ou pas, Lisée?
Oui.
Ça te va?
Comment étiez-vous au collège?
Quelqu'un qui avait plein d'idées, qui avait beaucoup d'énergie à l'époque.
À 3, on y va, tu marches normalement.
Dans la...
Et tu vois, tu marches. Okay. Allez, vas-y. Pourquoi tu m'as emmené dans une épicerie bio?
Bah parce que c'est quand même bien de voir que dans les Yvelines, il y a une épicerie à côté de chez nous.
Et pourquoi le bio? On aurait pu aller dans n'importe quelle épicerie.
Bah parce que c'est quand même bien d'avoir des produits bio, surtout qu'ici, qui sont pas tous chers. Donc...
On la refait?
Oui, je veux bien.
En fait la musique et donc il y a des moments où je la mets plus forte ou pas.
Cette séquence, un petit bout à bout, en fait on met tout ce qu'on a filmé hier, tout bout à bout. Donc tu vois, là c'est le matin, on a fait le portrait de Moussa.
Construire des immeubles, construire des bâtiments.
Et qu'est-ce qui vous a donné l'ambition?
C'est l'envie d'agir pour les autres. Moi je me suis engagé très tôt.
Bon bah bonjour à vous et bienvenue, c'est le studio 2 d'M6 sur lequel vous vous trouvez.
Elles sont toutes journalistes et donc là elles sont en train de monter des sujets. Donc ils ont un ordinateur voilà, pour trouver des informations et ça c'est ça le bon montage.
On donne un peu une partie des sujets du JT sur les réseaux sociaux, on les adapte au code des réseaux sociaux en mettant du sous-titrage, en mettant un format un peu plus vertical pour qu'il soit adapté au téléphone et en plus on fait des reportages directement pour les réseaux sociaux, adaptés aux réseaux sociaux.
Bah écoutez, je crois qu'en regardant les cuisines de M6, parce que je pense que vous êtes comme moi, vous avez probablement appris techniquement des choses en regardant ça. On a vu quelques futurs Nathalie Renaud, moi j'ai l'impression. Mais maintenant, j'ai envie d'avoir le point de vue de l'enseignante. Et je commencerai par vous demander comment vous formulez les enjeux de cette sensibilisation aux médias et à l'information pour vos jeunes.
Tout d'abord, je dirais que de l'extérieur, on pourrait avoir l'impression que les adolescents, comme ils sont nés dans un monde très numérisé, ils maîtrisent déjà beaucoup de choses. Et pour autant, de notre point de vue, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. L'école est très consciente de ces enjeux-là. L'éducation aux médias et à l'information, elle est inscrite dans les programmes de chaque discipline. Ce n'est pas une discipline en soi, c'est ce qu'on appelle un enseignement transversal. C'est un grand mot pour dire que chaque discipline peut se permettre d'enseigner l'éducation aux médias. Et c'est au cœur de la mission des professeurs documentalistes. Nous, notre objectif, on est parti du constat que, notamment avec ce projet mené aux côtés de M6, leur pratique numérique se limite souvent, pour nos élèves en tout cas, aux réseaux sociaux, comme loisirs certes, mais aussi comme moyen d'information, sans toutefois avoir le recul nécessaire pour comprendre vraiment les enjeux de bien s'informer. Donc, en partant de ce constat-là, on a eu envie de faire ce projet qui nous a été proposé par Samira, ici présente, bien sûr, pour les rendre autonomes, les responsabiliser et surtout développer des pratiques informationnelles vers les médias plus traditionnels, comme en l'occurrence la télévision. Ça veut dire qu'on a eu la chance non seulement d'enseigner des pratiques très concrètes pour vérifier l'information, mais aussi de développer un côté très ludique avec la création, parce que le numérique, ce n'est pas juste bien s'informer, ça peut être bien plus amusant, comme ils ont pu l'expérimenter.
Donc du coup, ce que j'entends, c'est que ce type de partenariat vient nourrir votre travail de professeur documentaliste, évidemment avec un aspect glamour qui ne doit pas être totalement négligé dans son attractivité. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous ressentez comme effet dans le partenariat que vous avez avec M6?
Alors, l'effet glamour n'est pas à négliger, parce qu'en l'occurrence, ce partenariat, il a rendu très, très concret l'éducation aux médias. Au lieu d'avoir un cours traditionnel, c'est plus des cours magistraux qu'on fait, surtout dans mon collège, parce qu'on est en réseau d'éducation prioritaire. Mais là, travailler aux côtés de journalistes au quotidien et permettre à nos élèves de créer de A à Z leur projet, ça a tout rendu très concret pour eux, parce qu'ils ont vécu l'expérience, ils étaient dans la peau de journalistes, et ça l'a rendu aussi très concret pour leurs parents, qui ont pu voir à la télévision le résultat de cette collaboration. Et ce n'est pas toujours le cas, les parents ne sont pas forcément au courant de tout ce que leurs enfants font à l'école. Donc là, ça a rendu très très vivant cet enseignement-là. Ça a été extrêmement formateur pour eux, autant que pour nous, d'avoir cette responsabilité de leur côté, bien sûr, parce qu'ils savaient que leur production allait être regardée par énormément de personnes. Ils ont eu la chance de se rendre compte du poids de la déontologie des journalistes, puisqu'ils étaient accompagnés, mais ils étaient aussi auteurs dans ces reportages-là. Ils ont découvert le métier en compagnie des professionnels, pas que des journalistes d'ailleurs, mais on a eu l'occasion de visiter la rédaction, donc ils ont vu toute la diversité des métiers qu'il peut y avoir dans le monde médiatique. Ça, c'était très intéressant. Ça les prépare aussi un peu à la troisième. Et surtout, vivre le projet, ça a été un long projet, donc on a réussi à les fédérer. Parce qu'ils créaient, il y a eu un petit groupe d'élèves. En fait, on a eu 2 équipes de 8 journalistes, mais toute la classe a participé à cette création-là. Et donc, ça permet une cohésion du groupe. Ça les a beaucoup plus soudés. Nous, on l'a constaté en travaillant avec eux sur cette longue période. Ils n'étaient plus les mêmes. L'ambiance de classe était formidable à la fin du projet, en fait. Ça les a soudés. Ils ont pris confiance en eux parce qu'ils ont énormément travaillé, tant à l'écrit qu'à l'oral, pour préparer ce que vous venez de voir à l'écran. Ils ont été extrêmement valorisés, c'est pas forcément tous les jours qu'on a l'occasion de faire un tel projet. Donc ça les a valorisés non seulement aux yeux de tout l'établissement, mais de leur famille qui parfois suivait les reportages de l'étranger, puisque vraiment ils ont... Je pense que tous les quartiers de Viry-Châtillon ont pu suivre cette aventure que nos élèves ont vécu. Et ça a créé du lien entre cette classe-là, eux-mêmes, et tout le reste de la communauté éducative.
Vous avez l'impression que... Alors là, ce dont vous nous parlez, c'est l'expérience. Sous le feu de l'expérience, on peut imaginer à la fois l'excitation, l'effet de découverte, l'effet de viral au sein du collège, au sein même de la commune de Viry-Châtillon et au sein des familles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir une persistance au-delà, enfin, une fois que le glamour sera retombé, si j'ose dire, une persistance de ce qui a été compris et appris?
Oui, j'en suis persuadée. Parce que...
Je dis, est-ce que vous êtes persuadée ou est-ce que vous pensez? C'est-à-dire que comme c'est tout frais, vous n'avez pas le recul, ça n'a pas été fait en novembre dernier, avec la capacité d'avoir un tout petit peu de recul, c'est en fait quelque chose qui, je crois, s'est déroulé entre mars.
Oui,
d'accord. Oui, d'accord. Donc vous avez quand même un tout petit peu de recul, malgré tout, sur la fin de l'année, par exemple, au mois de juin, vous avez peut-être pu observer cet effet de persistence de l'expérience qui avait été vécue.
Auprès de la classe, en plus de la cohésion d'équipe, on a pu observer... plus de confiance en soi de la part de nos élèves qui ont évolué énormément à l'oral. Donc, il y avait plus de participation en classe, pas que dans les matières qui ont été investies dans ce projet-là. Par rapport à la troisième, on pense qu'ils sont plus sereins, qu'ils ont plus confiance en eux, suite à cette valorisation, mais aussi parce qu'ils sont plus conscients des compétences qu'ils ont développées, parce que ils ont allé jusqu'au bout de ce projet, tout simplement. On avait un temps limité. Ils ont surmonté beaucoup de choses.
Sentiment d'auto-efficacité.
Exactement. Je pense qu'ils ont aussi pu appréhender, mettre un pied dans le monde professionnel, ce qui est important pour eux cette année, puisqu'ils sont à présent en troisième.
Et qui vont faire un stage.
Exactement. Et je sais que ça a donné l'ambition à certains de pouvoir se projeter dans ces métiers-là qu'ils n'avaient pas forcément au départ, puisqu'ils n'avaient tout simplement pas connaissance de toute cette diversité de professions. Et donc, c'était aussi l'enjeu des reportages et des thèmes abordés. C'était celui de Moussa Camara, notamment. Comment donner l'ambition aux jeunes de banlieue ? C'était ça qui leur a tenu à cœur, puisque c'était une manière pour eux de se projeter là-dedans.
Oui.
Je voulais conclure en disant que je sais qu'il va y avoir une trace de ce qu'on a mené cette année, puisqu'on a candidaté et été retenu pour ouvrir une classe média au collège pour un cycle de 3 ans. Donc, notre collège et notre équipe pédagogique peut à nouveau se lancer dans des projets d'éducation aux médias pour les prochaines années.
Eh bien, bravo. Alors, vous disiez, en fait, et c'est ce qu'on a vu aussi, je pense, les uns et les autres en regardant le reportage précédent, qu'on a vu des petites graines de journalistes, en fait. Il y en avait qui étaient déjà assez assertifs dans la manière de choisir ou d'argumenter. Et là, le dernier sujet qu'on va passer, c'est un sujet qui montre un reportage réalisé par ces élèves-là sur un thème qui est évidemment au cœur des enjeux dont on a parlé. Et Julia, je te laisse le lancer.
Bonjour Nassim, bonjour Manel, ça va ?
Ça va.
Vous avez bien dormi ?
Oui, ça va.
Vous êtes prêts pour aujourd'hui ?
Oui.
Ok, et ben on va aller à mon bureau et on va choisir ensemble un peu les fake news. Alors ce soir, on va faire tous les trois la rubrique Infox. Et je vais avoir besoin de vous aussi pour la dernière Infox, une dernière Infox d'actualité, puisqu'aujourd'hui on est le 1er d'avril et donc on va traquer les poissons d'avril. Ouais, Manel.
Bon, je viens de relancer. Le maire de Guérande prend un arrêté pour interdire le beurre doux.
Ah bah ça, c'est génial, ça.
Parce que la salle de Guérande, bah, c'est leur renommée, donc ils disent qu'ils arrêteraient le beurre doux.
Et je crois que ça ferait vraiment une révolte chez les Bretons qui ne mangent que du beurre salé.
Du coup, vous avez prévu quoi ?
Une petite chemise. J'ai prévu un costard, mais bon, on m'a dit que c'est trop.
C'était trop ?
Tu verras sur le plateau, il y a beaucoup de lumière et donc il faut un peu de maquillage pour pas ressembler à un fantôme et surtout pas trop briller.
Donc vous serez dans ces places ici. Donc vous aurez Cyriel au milieu. L'un de vous deux sera là et l'autre sera ici. D'accord ?
Les regards que vous faites vers Cyriel et le retour d'un compteur, c'est nickel. Et le rythme, et on s'arrête au point et on ne bouffe pas les derniers mots, c'est nickel aussi.
Ce devait être.
Allez, c'est parti.
That's the moment.
Je suis accompagnée de Manel qui est en 5e et Nassim qui est en 4e. Et dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, ils m'ont aidé à débusquer des fausses informations.
Oui, effectivement. D'abord, on remarque que les casques des policiers sont entièrement noirs. Alors qu'en France, les casques des gendarmes et des policiers français possèdent un insigne ou une bande colorée.
Et oui, c'est le maire de Guérande qui a pris cet arrêté pour interdire la vente et la consommation du beurre doux dans toute la ville. Une information surprenante. Alors on a téléphoné à la mairie pour vérifier. Et effectivement, c'est faux. Le maire a expliqué avoir voulu faire une blague car c'est connu, les Bretons adorent le beurre salé.
Ce soir, à débusquer les infox et ils vont m'aider à terminer ce journal. Atouma étant 4e, c'est elle qui va m'aider. Atouma, quel est le programme qui attend ce soir nos téléspectateurs ?
Tout de suite, vous retrouverez la météo et scène de ménage. Et ce soir sur M6, 3 épisodes inédits de votre série NCIS Hawaii. Pour l'information, vous retrouverez Dominique Tenza demain au 12h45. Très belle soirée à tous.
Bonne soirée à tous.
Merci à tous.
Samira, on va essayer de conclure rapidement. Moi, j'ai une ou deux questions quand même à te poser et ensuite on laissera la parole à Annabelle. En fait, là, on est en train de parler d'une opération auprès de 3 collèges de la région Île-de-France, une centaine d'élèves. Mais au-delà de ces 100 élèves qui ont vécu toutes et tous ce dont Camille nous parlait, c'est quoi le rayonnement de l'opération, de ce type d'opération ?
En fait, effectivement, on a c'est plus de 100 élèves qui ont été de sensibilisés sur cette opération, ce qui est énorme en réalité pour pouvoir produire ces 5 reportages dans un délai extrêmement serré. Et on a souhaité en fait que tout ce travail en fait puisse être partagé avec des milliers d'autres jeunes et enfants qui n'ont pas eu la chance de participer, mais que ça puisse aussi leur donner certaines clés, leur donner des envies, puis leur montrer tout le processus de création de ces jeunes du même âge qu'eux. Et donc on a produit un documentaire qui retrace en fait toute cette aventure, donc avec des images que vous avez pu voir, mais enrichi aussi avec le travail et tous les reportages qui ont été réalisés par les autres collèges. Et ce documentaire, on l'a mis en diffusion sur la chaîne YouTube de Gulli. On l'a également mis en diffusion sur Sisplay. On l'a partagé sur l'ensemble de notre plateforme, sur nos réseaux sociaux. Et en fait, on a été agréablement surpris, parce qu'on était quand même sur un format documentaire, avec l'histoire de jeunes qui ne sont pas forcément représentatifs de toute la France. Et malgré tout, on a eu près de 120 000 vues sur la chaîne YouTube. On a eu des super audiences sur le replay. D'ailleurs, j'étais extrêmement étonnée à la suite de la première semaine de diffusion. On m'annonce que le documentaire est dans le top 2 des meilleures vues sur Gulli Replay. Donc voilà, donc ça montre aussi que la projection de tous ces jeunes sur le travail de ces collégiens est extrêmement important. Je pense que le fait de voir le travail de jeunes de leur âge véritablement incarné, ils se sont aussi reconnus en eux. Et je crois que ça a été aussi la clé de ce succès. C'est aussi des outils, parce que finalement, tout ce matériel qu'on a produit et auquel ils ont participé, c'est aussi des outils aussi pour le Clémy. Hein. Moi, j'ai pu échanger avec des formateurs près du Clémy, hein, dont c'est la vocation première au quotidien toute l'année, qui m'ont dit vraiment c'est des outils précieux de pédagogie pour les autres élèves, parce que ça leur montre aussi à travers l'expérience de ces collégiens comment ça se passe et ça les responsabilise aussi. Donc en fait, on avait vraiment comme objectif cette année de faire en sorte que tout ce travail-là puisse être mis aussi à disposition de plein d'autres établissements, de plein d'autres jeunes. Et on a aussi l'ambition de pouvoir rendre ce projet à une plus grande envergure.
De dépasser par exemple l'Île-de-France, si on revient sur le...
Voilà, l'Île-de-France, c'était aussi une première expérience, donc c'est vrai que c'est plus facile de travailler avec des collèges à proximité de nos locaux, aussi pour répondre aux problématiques et au planning des différents journalistes. Mais on a vraiment l'ambition de pouvoir étendre ce projet au niveau national. Ça a aussi donné des vocations et des envies aussi à plein de journalistes, des correspondants locaux qui ont envie de se prêter au jeu, plein de reporters, hein, parce qu'il y a M6, il y a les équipes sur Paris, mais il y a toutes les équipes aussi en région qui se sont aussi portées volontaires pour travailler avec nous. Et voilà.
Et Samira, justement, les équipes d'M6, est-ce que, parce qu'on a compris en fait l'effet que ça pouvait avoir sur les gamins et des 3 collèges et au-delà, mais est-ce qu'il y a aussi un effet sur les équipes d'M6 de participer à ce type d'opération?
Oui, il y a un effet qui est déjà de l'ordre de l'émotion. Le fait de, même si j'ai beaucoup travaillé sur ce projet, le fait de revoir les images, ça provoque chez moi encore beaucoup d'émotions. Oui, c'est pour nous en tant que professionnels des médias et pour l'ensemble des journalistes qui se sont investis sur le terrain au quotidien auprès de ces élèves. Déjà, à titre personnel, c'est extrêmement gratifiant puisqu'on se sent utile, on sait que notre travail il a du sens et puis le résultat, en fait, il est palpable, en fait, c'est concret, c'est-à-dire qu'on le mesure. On suit les élèves le 1er janvier et puis on les suit jusqu'au 1er avril et on voit la manière dont ils ont évolué. Le petit gamin, Nassim, que vous avez pu voir, qui a co-présenté à la rubrique Infox au tout début du projet, il prenait le micro, il était comme ça, voilà. Et puis voilà, il arrive sur 19h45, je suis à l'aise, tranquille, voilà. Donc en fait,
j'aurais adoré être au collège.
Voilà, et donc du coup, c'est vrai que le fait d'avoir une dimension palpable de notre travail, de notre investissement, de notre engagement et de pouvoir le mesurer dans ce qui nous rend aussi comme émotion, comme satisfaction. Et puis, ils nous apprennent énormément de choses. C'est-à-dire que nous, on leur apprend des choses, mais ils nous apprennent encore plus. Ils nous apprennent sur leurs usages, ils nous apprennent à avoir un regard différent sur l'actualité, ils nous éclairent, ils nous nourrissent aussi sur plein de projets. En fait, on n'aborde plus du coup le travail de la même façon. Moi, je travaille pour une chaîne jeunesse, donc c'est vrai que je me suis aussi nourrie de leur regard, de leur expertise, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, de ce qu'ils comprennent, de ce qu'ils ne comprennent pas. Et ça me permet aussi de réajuster, moi, mes opérations, mes campagnes, la manière d'aborder aussi mon travail de communicant.
Comme vous le voyez, Samira n'est pas du tout passionnée par son métier, encore moins par l'opération dont elle parle. Voilà. Alors, pardonne-moi,
Juste un petit mot pour les journalistes. Ce que je voulais dire, c'était que leur engagement, il est extrêmement important et fondamental dans ce projet. Et que ça a suscité aussi beaucoup d'enthousiasme, de cohésion. Voilà, c'était pendant 2 mois, on n'a parlé que de ça au sein de la rédaction. C'est quelque chose qui a été extrêmement partagé. Et je voulais juste dire un petit dernier truc, si tu me permets, Philippe. Les deux élèves là, que vous avez pu voir sur le JT du 1945, évidemment, ce n'est pas un hasard si on leur a proposé de co-animer la rubrique Infox du 1945, parce qu'évidemment, les fake news, c'est un enjeu majeur dans notre société, donc c'était aussi l'occasion pour eux de pratiquer concrètement. Donc là, il y a deux élèves qui ont co-animé, mais en fait, il y a tous les collégiens qui ont travaillé pendant plusieurs jours à des propositions de fake news qui ont été traitées pendant ce JT. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que en fait, ces deux élèves en fait, ont postulé parmi 20 autres élèves un appel à candidature qu'on leur a lancé au début du projet qui s'appelle « Je postule pour le JT » et on leur a demandé de nous faire une petite vidéo pour nous dire pourquoi je postule pour le JT. Voilà. Et en fait, on s'est réunis avec la rédaction d'M6, la rédaction de Gulli pour choisir finalement les deux jeunes qui allaient co-animer. Et en fait, finalement, ce qui était important, ce n'était pas tant de savoir qui avait gagné, en tout cas qui avait eu la chance d'être choisi, même si le choix était extrêmement dur pour nous, c'était en fait tout ce travail. Parce que finalement, faire une petite vidéo de 2 minutes pour se présenter, pour expliquer sa motivation, pour dire pourquoi il faut nous choisir, nous et pas l'autre, etc. Mais en fait, c'est un vrai travail, c'est un véritable exercice. C'est comme s'ils postulaient pour un premier job. Voilà, ils ont fait des vrais effets de montage, ils se sont fait beau, ils ont travaillé leur discours. Voilà. Et donc tout ça, participe aussi au travail et à la manière pour eux d'apprendre aussi à s'exprimer, à se valoriser.
Et on sait la faiblesse, là je me retourne presque vers Camille, la faiblesse en France de l'enseignement, de la prise de parole, de l'assertivité.
C'est extrêmement important.
Comparé au monde anglo-saxon, ce qui nous amène à l'âge adulte, à des différences qui sont parfois humiliantes. Alors, merci beaucoup, Samira. Oui, je ne te donnerai plus la parole, sinon on va dépasser. Non, je rigole, bien sûr.
C'est nul.
Bon, je vais laisser la difficile tâche à Nabel de nous parler, d'élargir un tout petit peu le débat, de nous parler en fait de l'enjeu au niveau de la cellule familiale. Et de le faire, si possible, Annabelle, en 4 minutes, ce qui nous laissera quand même un tout petit peu de temps pour
les faire tricher par rapport à la prochaine conférence. Donc, vous me faites signe quand il faut que j'arrête, mais je vais le faire effectivement à un rythme un peu plus soutenu. Juste pour vous dire qu'au sein du groupe M6, on a aussi donc, une cellule étude, notamment au niveau de la régie publicitaire, qui travaille sur différentes explorations de la société française et notamment donc, des jeunes générations à travers donc, 3 marques qui apparaissent ici, le temps des marques responsables, les tendances kits que l'on fait donc, spécialement pour Gulli et à travers des post-tests d'opérations qu'on a sur nos antennes et notamment sur la semaine green. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Gulli avec cet engagement autour de la pédagogie aux médias, mais pour élargir, on va dire, le débat, sachez que Gulli est investi sur un certain nombre de thématiques plus larges, environnementales et sociétales, mais qui vont au-delà de la pédagogie aux médias, et notamment le fait d'inciter les enfants donc, à lire, à faire des activités physiques, etc. Et cet engagement, il est vraiment perçu par les enfants de façon extrêmement forte, hein, parce que vous voyez, 98% des téléspectateurs, des jeunes téléspectateurs de la chaîne reconnaissent les engagements de Gulli. Et pourquoi ? Pour différentes raisons, parce que je reparlais de la semaine green tout à l'heure, mais tout au long de l'année, donc, la chaîne s'engage et a donc très régulièrement sur ses antennes donc, des programmes qui sont dédiés. Alors, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux en disant donc, que les enfants s'informent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais je vais démentir un peu ces données et ces chiffres. Pourquoi ? Parce qu'on a pu mesurer très concrètement à quel point aujourd'hui, donc, le média traditionnel qui est la télévision, qui paraît un dinosaure auprès des enfants, bah, finalement, il est encore extrêmement important, il a un rôle central pour éduquer et informer les enfants, notamment sur les sujets sociétaux et environnementaux. Donc, quelles que soient les grandes thématiques, hein, vous le voyez, donc, autour de l'égalité, donc filles garçons, du handicap, du racisme, des problèmes de santé ou encore d'environnement. La télévision, parmi les autres médias qu'on a pu mesurer, est un média absolument central pour informer à la fois les enfants et leurs familles. Et un média de confiance, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure effectivement des fake news, la télévision est perçue comme un média donc, de confiance au même titre que la presse. Le groupe M6 est également très engagé au-delà de Gulli. Donc, M6 s'engage à travers le développement d'une collection de documentaires et de fictions très engagées et qui parle qui aborde hein, toutes ces problématiques que l'on peut avoir donc, au collège. Donc, bien sûr, hein, le harcèlement, notamment, donc, sur lequel c'est vrai que cette cause tient beaucoup au cœur des antennes d'M6. Et donc, on aura donc, à la rentrée, notamment ce soir, donc, une fiction inspirée de faits réels qui s'appelle Respire, sur une jeune fille qui a été harcelée. Et j'insiste hein, sur le fait que on travaille vraiment à la fois sur un format de fiction qui permet souvent de toucher un plus large public, mais aussi sur des séries documentaires, parce que le format long revient aussi de plus en plus à la télévision, donc ce qui permet de contrebalancer donc ces formats courts auxquels on est exposé tout au long de la journée. Autre point, donc on accompagne depuis 8 ans le ministère de l'Éducation nationale à travers une campagne publicitaire qui informe aussi, donc qui sensibilise les familles et les enfants sur cette problématique du harcèlement. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de diffuser le spot, peut-être pas. Non, donc je le zappe. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur YouTube certainement. Donc je reviens donc à ces sources d'informations donc qui influencent alors cette fois-ci le choix en matière de consommation responsable des familles pour élargir donc le débat. Vous le voyez donc on va retrouver dans le top du classement et bien heureusement donc la famille, les labels, mais encore une fois, vous le voyez, les émissions de télévision arrivent en cinquième position pour informer donc les consommateurs et notamment les familles sur ces enjeux de consommation responsable et durable. Autre point, la publicité aujourd'hui qui s'adresse aux enfants ne traite quasiment pas de ces problématiques. Par contre, si on s'adresse aux générations, donc à la Gen Z, aux générations de 15-24 ans, il y a beaucoup de marques hein, qui en parlent et qui s'adressent à eux sur ces thématiques à la fois sociétales et environnementales. Et alors là, je ne sais pas s'il y a des annonceurs ou des gens qui communiquent dans la salle auprès de cette génération, mais sachez que c'est une génération qui est extrêmement cash, ça je ne vous apprends rien, mais qui nous a raconté, qui nous a dit qu'ils en avaient un peu assez, donc aujourd'hui des représentations un peu stéréotypées qu'on peut avoir dans les pubs qui s'adressent à eux, et que la normalisation de l'inclusivité devait être très forte. Ils souhaitaient être plus informés que sensibilisés notamment. Et puis il y a un point extrêmement fort qu'ils nous ont dit, c'est qu'il faut que ça coûte aux marques. C'est-à-dire qu'il faut que les marques, on sente que ces communications responsables ne soient pas simplement un enjeu de désirabilité vis-à-vis de la marque, mais un vrai enjeu d'engagement et que ça leur coûte, mais véritablement en termes d'investissement et en termes de financier, à la hauteur donc, de l'économie de la marque. Alors, la semaine green, un tout petit mot, puisque c'est vrai que sur nos antennes, tout au long de l'année, donc, on s'engage, on a des contenus, donc, notamment sur Capital, hein, qui traitent de tous ces sujets environnementaux et sociétaux. Et chaque année, depuis 4 ans maintenant, on a un zoom, un coup de projecteur pendant une semaine sur toutes nos antennes, à la fois donc M6, Sisplay ou encore RTL, qui va permettre de toucher 32 millions de téléspectateurs à un instant T. Alors, une démarche sur laquelle on a été beaucoup challengé par les journalistes, par le microcosme, on va dire, un peu bobo parisien. Mais sachez que lorsqu'on interroge, on va dire, le français moyen, la France vraiment populaire qui correspond à notre public, il y a une adhésion extrêmement forte. Vous le voyez ici à travers quelques chiffres, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça permet d'aller chercher également des personnes qui sont alors déjà éco-impliquées, mais également d'élargir à des personnes qu'il faut absolument sensibiliser. Évidemment, Gulli participe à cette opération de la semaine green à travers donc, un de ses programmes phares hein, qui s'appelle What's Up. Et vous le voyez dans les différents insights hein, qui ressortent, c'est que ça permet d'apporter des clés de compréhension, des solutions concrètes et surtout de le faire d'une façon très ludique, pédagogique et avec beaucoup de positivité. Ça questionne également la consommation et le niveau de consommation des enfants et des familles. Et ça, c'est important évidemment pour nous de mettre au cœur évidemment de nos émissions ces différents enjeux de mieux consommer. Enfin, pour terminer, donc quelques insights issus d'études hein, que l'on met en place qui permettent aussi de comprendre à quel point l'arrivée d'un enfant au sein d'une famille fait réfléchir, questionne sur sa consommation
et permet donc de commencer parfois donc à déclencher donc une responsabilisation donc dans son quotidien. Ici, on vous a mis donc quelques exemples de gestes éco-responsables qui étaient très au-dessus de la moyenne de la population française, donc au sein des familles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous les ai donc entourés donc en rose. On va retrouver donc notamment donc toutes les questions liées au bien manger et notamment donc des produits de saison. Je pense que c'est un discours qu'on a tous beaucoup porté, nous sur nos antennes, mais aussi les annonceurs donc auprès du grand public, ou encore les enjeux de recyclabilité. Et pour terminer, donc évidemment, donc les enfants, ils ont aussi un pouvoir d'influence extrêmement fort sur leur famille, et c'est ce qu'on peut démontrer donc dans différents insights hein, qu'on a pu mesurer. Et en première position, donc on va retrouver donc le tri, le comment mieux trier et recycler donc ces déchets. Et on a certains enfants qui nous disaient reprendre leurs parents qui parfois mettaient dans la mauvaise poubelle les déchets de la famille. Je terminerai juste avec un dernier point donc sur cette étude du temps des marques responsables, qui est un baromètre qu'on a mis en place il y a plus de 4 ans maintenant et qui nous permet de mesurer au-delà des familles, à l'échelle de l'ensemble des Français, l'évolution des comportements responsables, l'appréciation des marques sur ces enjeux et le rôle des médias. Et donc, on a une vision barométrique hein, qui nous permet de suivre vraiment dans le temps les évolutions. Et cette année, donc, un petit aparté, donc, on avait 2 thématiques mises en avant. Donc, cette écologie du portefeuille, comment est-ce qu'on peut concilier donc, pouvoir d'achat et consommation responsable. Et on a un petit peu gratouillé, on va dire, les annonceurs concernant leur communication donc, responsable. On s'est associé avec Impact Mémoire, qui est une société d'études spécialisée dans les sciences cognitives et la création publicitaire. Et ça nous a permis de mettre en perspective des insights extrêmement forts pour mieux communiquer donc, auprès du grand public sur l'ensemble de ces enjeux.
Merci Annabelle. Ça a été au pas de charge, mais extrêmement intéressant. On a une chance énorme, c'est qu'ils n'ouvrent pas la porte, qui en général le petit signal qui commence à, qui indique qu'on doit sortir. Donc, est-ce que déjà, on va essayer de grappiller une question, peut-être deux. Est-ce que vous avez déjà une première question? Non? Ah.
Bonjour. Donc, merci pour ces partages. En 45 minutes, j'ai appris énormément de choses. C'était dense, mais très bien. Et bravo pour cette super initiative dans les collèges. Je suis Camille Longuet, je travaille chez Citeo sur l'éducation à l'environnement, le tri des déchets en particulier. Et j'ai une petite question, notamment pour vous Camille, je m'adresse de Camille à Camille, mais notamment sur l'impact du projet. On a parlé au sein du groupe M6 sur les 100 élèves impliqués dans le projet, les journalistes, les gens qui ont regardé le reportage. Mais j'ai une question sur les autres professeurs documentalistes. Est-ce que vous, dans votre communauté d'enseignants, parce que vous êtes connectés à d'autres collèges, est-ce que ça leur donne envie des idées d'outils à utiliser? Est-ce que ça peut avoir un impact encore plus large sur la communauté éducative? Voilà. Merci.
Merci.
Pour être très honnête, je n'ai pas eu l'occasion de revoir mes collègues documentalistes pour l'instant. Des membres du CLEMI étaient présents et je pense qu'ils vont le mettre en avant dans nos réunions de bassin à nous. Je tiens à préciser que je n'étais pas la seule professeure impliquée. Il y avait aussi un professeur d'histoire-géographie et une professeure de français. Donc je pense que déjà au sein de notre établissement à nous, ça a donné envie aux autres collègues qui font déjà par ailleurs beaucoup de choses. Et je pense que ça pourra intéresser les autres professeurs documentalistes qui s'emparent déjà de la semaine de la presse comme moyen de proposer des activités à leurs élèves. Mais je pense qu'en voyant la vidéo, ils seront conscients que c'était une opportunité rare, enfin qu'on a eu beaucoup de chance d'être sélectionnés pour faire ça. Je pense qu'ils aimeraient tous pouvoir faire ça eux-mêmes dans leur collège. Oui, alors en fait je suis toujours un petit peu gênée parce que je sais que quand on parle du métier de professeur documentaliste, les gens pensent à la dame du CDI et ça a énormément évolué depuis ce qu'on a pu connaître nous. Et surtout en région parisienne où il y a énormément de jeunes professeurs, donc je suis persuadée qu'ils font déjà des choses très bien et très dynamiques dans leurs établissements. Mais c'est sûr qu'ils adoreront ce type de projet. Voilà.
Je Merci. Tiens à préciser, Philippe, que ce soir, c'est Nathalie Renoux, justement, qui animera la soirée des grands prix des marques engagées. parce qu'elle est
dont M6 est partenaire depuis
voilà.
6
mais
ans.
Mais en tout cas, voilà, Nathalie est très très engagée au sein du groupe sur différents sujets dont la fondation. Et voilà, ce sera un plaisir ce soir d'animer cette remise des prix.
Merci, merci beaucoup. Et donc venez nombreux ce soir pour voir et Nathalie et les gagnants du Grand Prix de la marque engagée. Merci.